Merci Roberta Maillon. Nous aurons le temps de discuter de ce très riche exposé à la suite des deux autres, puisque nous aurons une période réservée aux questions. Et je vais donner tout de suite la parole à Françoise Héritier, qui a succédé à Claude Lévi-Strauss ici même comme professeur et qui, dont les travaux bien connus sur la parenté à la fois prolonge et aussi transforme certaines des hypothèses de Claude Lévi-Strauss. Et donc cette part importante de la réservée à la parenté que j'annonçais ce matin, eh bien, Françoise Héritier, vous allez nous donner l'occasion de l'évoquer avec vous.
Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, si j'ai choisi ce titre à la simplicité un peu rustique, c'est autant pour en revenir aux « fondamentaux » entre guillemets et aux problématiques qui ont fait la réputation de Claude Lévi-Strauss à ses débuts, que pour souligner, depuis l'apparition des structures élémentaires de la parenté en 1949, la formidable ténacité des idées qu'il y a exprimées et, au-delà de la permanence des questions soulevées, la fécondité de leur ensemencement au sein d'une recherche actuelle, rare, il est vrai, compte tenu de l'aridité du sujet, mais persistante et de haut niveau, et que je salue ici. Ce que je voudrais cependant exposer trop brièvement, certes, ce sont mes positions fondées sur mes propres travaux de recherche sur trois thèmes principaux dont je souhaiterais montrer l'agencement logique et l'interpénétration. Au-delà de la fidélité aux questions posées par Lévi-Strauss, les réponses différentes que j'ai pu y apporter témoignent d'une vérité essentielle. L'important n'est pas dans la réponse, elle est dans la question. Et les questions qu'a soulevées Claude Lévi-Strauss gardent toujours leur incroyable force d'appel. Ces trois points dont je souhaite montrer la cohésion nécessaire qui les unit sont les suivants. Comment fonctionne, en fait, le choix du conjoint dans les structures complexes et semi-complexes de l'alliance matrimoniale? Deuxièmement, pour quelles raisons la prohibition de l'inceste est-elle apparue comme une nécessité dans la conscience des humains? Comment s'est-elle établie de façon aussi tenace et constante que Lévi-Strauss a pu la présenter comme une, sinon la seule, loi universelle régissant les hommes en société? Enfin, troisièmement, peut-on toujours parler de l'échange matrimonial comme conséquence ou comme cause de la prohibition de l'inceste? Et ne peut-on, à la lumière de ce qui précédera, expliquer l'échange des femmes lévi-straussiens par d'autres soubassements de la pensée que la compréhension naissante qu'il était nécessaire de créer des liens sociaux durables et pacifiques entre groupes consanguins antagonistes. Vous me direz rien que ça, mais enfin c'est bon, c'est un grand coup de pelle. Bon. Alors ce plan peut sembler ambitieux. J'aurais pu tout aussi bien le présenter dans l'autre sens. Après mûre réflexion, il m'a semblé que l'exposé serait plus facile à suivre pour un auditeur non averti, car je ne pense pas que les spécialistes de la parenté dominent dans cet amphithéâtre si j'exposais les faits dans l'ordre tel que je viens de le présenter. Alors comment fonctionne donc le choix du conjoint dans les sociétés à structure semi-complexe et complexe de l'alliance? Alors deux mots d'explication nécessaires cependant. Les structures élémentaires de l'alliance matrimoniale sont celles où, de par sa naissance, le choix du conjoint pour tout individu est orienté de façon préférentielle forte vers certaines catégories de parents consanguins. Toute la nouveauté de la recherche structurale de Lévi-Strauss en ce domaine a été de mettre de l'ordre, une logique et des dénominations communes sur des pratiques considérées avant lui comme éparses, relevant de l'arbitraire, dénuées de cohérence entre elles. Il montre leur sens et leur cohérence. Il distingue les sociétés qui pratiquent l'échange restreint et celles qui pratiquent l'échange généralisé. Accessoirement, l'échange restreint différé, je vous épargnerai l'explication de ces termes. Mais toutes les sociétés ne fonctionnent pas ainsi, loin de là. Lévi-Strauss s'est sagement arrêté au seuil de ce qu'il a globalement appelé les structures complexes de l'Alliance, appelant de ses voeux la postérité ethnologique à vérifier si le choix du conjoint y obéit aussi à des règles cachées, peu nombreuses, qui organiseraient le champ. Alors, par structure complexe de l'alliance, il faut entendre celle qui, au lieu d'orienter positivement le choix, procède par des interdictions. Alors, c'est le cas des sociétés occidentales, évidemment, où en dehors des degrés de parenté prohibés par la loi et par l'Église, qui touchent des consanguins et aussi des parents par alliance, on reviendra là-dessus, chacun est apparemment libre de choisir son conjoint comme il l'entend. Entre les élémentaires et les complexes, j'ai introduit la catégorie des structures semi-complexes que Lévi-Strauss intégrait dans les complexes, illustrées dans des sociétés qui fonctionnent elles aussi avec des interdictions, parfois extrêmement nombreuses, mais qui, au lieu de porter sur des individus caractérisés par une relation généalogique de consanguinité et d'alliance entre eux, portent sur des ensembles de personnes définies par une règle de filiation patrilinéaire ou matrilinéaire. Alors, ce n'est pas le degré réel d'apparentement qui compte, mais le fait que le conjoint potentiel appartient de par sa naissance, selon la règle de filiation, à l'un des lignages, lignées ou groupes de descendance prohibés. Ainsi, dans des sociétés à structure semi-complexe, de type Omaha, avec filiation patrilinéaire et résidence patri-viri-locale, ce qui aide d'ailleurs à la reconnaissance des appartenances par l'affectation à un espace, un individu, égo-masculin, en droit, comme dans le discours des informateurs, ne peut prendre une épouse dans son propre lignage, dans celui où est née sa mère, dans ceux où sont nées ses deux grands-mères. Alors, s'y ajoutent bien d'autres interdictions, comme celle, par exemple, chez les Samo, d'épouser une femme dans un lignage qui a déjà fourni une épouse à quelqu'un qu'Ego appelle mon frère ou appelle mon père, c'est-à-dire, en fait, à tous les hommes de son lignage qui appartiennent soit à sa génération, soit à la génération au-dessus. Ça fait beaucoup. Interdiction d'apparence d'ailleurs fort énigmatique, mais dont la raison d'être relève de la sphère cognitive et qui a des conséquences sociales extrêmement fortes. Alors, pour Lévi-Strauss, ces structures doivent entraîner une turbulence permanente du champ de l'alliance et son extension indéfinie dans tous les sens, soit en raison de la grande variété de choix qui est offerte par les structures complexes, les nôtres, soit, pour ce qui est des structures semi-complexes, en raison de l'obligation pour Ego d'éloigner son regard de tous les lignages consanguins et de tous les lignages déjà affins avec lui, sous certaines modalités, ainsi par exemple aussi l'impossibilité de prendre une épouse dans le lignage qui lui en a déjà donné une ou dans les lignages ascendants de ses femmes, par les femmes. Alors, dans l'introduction à la deuxième édition aux structures élémentaires de la parenté, Lévi-Strauss pose la question avec force. Peut-on vraiment déceler des régularités structurales? Et si oui, de quel ordre sont-elles? Et comment faire pour y parvenir? Il s'autorise quelques hypothèses sur ce deuxième point, donc sur les moyens, les mathématiques, dit-il, ou aussi les simulations. Il faut noter d'ailleurs qu'à l'époque de cette deuxième édition, l'informatique, certes, était en marche, mais elle n'était pas encore appliquée aux sciences de l'homme et de la société. La question de la turbulence de ces systèmes est toujours à l'ordre du jour. S'y ajoutent, dans l'esprit d'auteur qualifié, deux hypothèses qui, toutes deux, posent en pétition de principe l'inexistence de ces régularités potentielles dans le champ des structures complexes, ou du moins, pour l'une de ces hypothèses, l'inexistence de régularités fondées sur le jeu de la parenté elle-même. Si elle s'observait, selon cette hypothèse, elle serait le résultat de forces économiques, politiques ou idéologiques. Dans la deuxième hypothèse se fonde quant à elle sur l'idée du primat supposé dans le fonctionnement de ces systèmes, de la liberté individuelle de choix selon des stratégies qui n'obéirait pas à des contraintes dictées par la parenté. Ces deux hypothèses se fondent, à mon avis, sur des prémices erronées parce que non questionnées. Peut-on accepter d'emblée l'idée d'une turbulence induite par des règles prohibitives qui disperseraient au lieu de concentrer? C'est là le postulat lévi-straussien. Peut-on penser, deuxièmement, que les stratégies individuelles ont toujours des raisons fortement contrastées et indépendantes les unes des autres et ne se coulent pas, sans même s'en rendre compte, dans les moules qu'elles ont contribué à établir? En tout cas, Pour répondre à ces questions, j'ai voulu y voir par moi-même selon une autre méthode que celle que préconisait Lévi-Strauss. J'ai voulu voir comment une communauté s'y prend effectivement quand elle est immergée dans une structure semi-complexe de l'Alliance. C'est donc à partir d'un relevé généalogique et matrimonial le plus complet possible sur trois villages chameaux, les lignages de trois villages chameaux, que j'ai travaillé, en bâtissant ensuite des hypothèses et en utilisant, c'était ma chance, l'informatique naissante, grâce d'ailleurs à l'aide d'une informaticienne, Madame Marion Sels, que je remercie encore profondément. Or, qu'ai-je trouvé ? Bien, contrairement aux attentes, c'est-à-dire aux présupposés lévi-straussiens de cette turbulence sans régularité, le système fonctionne en vase clos, endogamie locale et consanguine réunie, grâce à une organisation logique sans faille qui articule entre eux les interdits. Un postulat de base s'impose dans ce cas. Si deux frères ou deux sœurs ne peuvent renouveler une alliance, un frère et une sœur le peuvent, ce qui autorise l'échange des sœurs, l'échange restreint immédiatement. Par ailleurs, le jeu combiné de la polygynie, de la différenciation de lignées collatérales par les frères, un homme n'est pas tout seul, il a de nombreux frères et il a plusieurs épouses, l'antagonisme apparent qui se confond en un engrenage nécessaire des interdictions, tout cela permet à la fois de réaliser des bouclages dans la consanguinité au plus proche des catégories interdites, mais aussi l'établissement de cycles d'alliance, échange restreint, bouclage dans la consanguinité, cycle d'alliance, donc de type des structures élémentaires de la parenté. On voit en quelque sorte fonctionner l'échange restreint direct ou différé et l'échange généralisé, à cela près que dans les structures élémentaires décrites par Lévi-Strauss, on se réserve les parentes égaux masculins, se réserve, si je puis dire, ses parentes proches en laissant les parentes éloignées aux autres, alors qu'ici, on choisit à l'inverse, parmi des parentes relativement éloignées, quatrième ou cinquième degré, canon, en laissant les plus proches à la disposition d'autrui. Alors, à côté de bouclage et de cycle, on observe une remarquable propension à l'échange régulier et pondéré entre de mêmes lignages. Comment cela est-il donc possible ? Eh bien, c'est possible par le changement et l'alternance de lignées indépendantes au sein de mêmes lignages, mais aussi par le jeu du glissement et de l'articulation des interdits les uns par rapport aux autres. Ainsi, par exemple, si Ego ne peut se marier dans le lignage de sa mère, ni dans celui d'une autre épouse de son père, ni dans ceux des épouses de ses oncles paternels, ni dans celui de sa grand-mère paternelle, il peut en revanche épouser une femme appartenant à un lignage qui a donné une autre épouse à son grand-père paternel. Et c'est même un mariage préférentiel. Ou encore, si un homme a reçu deux femmes qui, de par le jeu des interdits, sont nécessairement non apparentées entre elles, puisqu'il ne peut pas épouser une femme qui est apparentée à une précédente épouse, il peut rendre au lignage qui lui en a donné une la fille qu'il aura eue de la seconde, sans rompre aucun des interdits de parenté. Alors, toutes sortes de coups sont ainsi possibles et d'aménagements réguliers par l'effet soustracteur, et j'insiste là-dessus, et non pas cumulatif, additionnel, des prohibitions. On voit donc opérer les mêmes grands mécanismes que dans les structures élémentaires de la parenté. J'ajouterai même, ayant assisté à des comptabilités faites par les doyens de lignage lors de conseils, que ces échanges sont conscients, organisés, remémorés. On a pu m'objecter, certains auteurs anglo-saxons auxquels je pense, qu'il s'agit là d'un cas unique, d'un apax, mais je ne le pense pas. D'après les quelques informations dont je dispose sur d'autres sociétés relevant du même régime, je peux avancer assurément que c'est bien de l'agencement intime et remarquable des règles régissant le champ de la parenté et de l'alliance que naît la structure. Les objets qui y participent peuvent changer de définition. Ce pourra être des hameaux, par exemple, au lieu de lignage, comme chez les Mkako, étudiés par Elisabeth Coppet, mais cela n'enfreint pas la logique même du système. Alors, dans le cas des structures complexes de l'Alliance, dans des sociétés à filiation cognatique essentiellement, c'est-à-dire sans ligne sociale fonctionnelle d'appartenance par filiation, et à grand développement démographique, comme c'est le cas pour les sociétés occidentales, là aussi la surprise est grande. En dehors des travaux ethnologiques, comme ceux de Martine Segalen ou de Pierre Lamaison, je me réfère surtout ici aux travaux d'historiens et aux excellentes analyses et synthèses qui ont été réalisées par Gérard Delisle, dont la dernière s'intitule « Parenté et alliance en Europe occidentale, un essai d'interprétation générale ». Il a exploité de nombreux corpus, publiés ou mis en ligne, puisque maintenant on peut mettre en ligne, par des collègues sur différentes régions d'Europe, sur une période allant du XIIIe au XVIIIe siècle inclus, et sur des populations tant nobles que roturières. Et cela représente à peu près une douzaine de corpus qui vont de la Haute Lotharingie à Fégréac en Bretagne, en passant par la Cornouaille, l'Italie, l'Espagne, la Belgique. Alors, le travail de référence, c'est le sien propre, à savoir l'analyse exhaustive qu'il a menée de, je traduis, le grand livre des familles de Manduria, en Italie du Sud. Après le concile de Latran, en 1215, qui fixa les interdits au quatrième degré canon, et afin de pouvoir s'y retrouver dans sa propre pratique quotidienne, un archiprêtre, fort zélé et intelligent, entreprend de tenir un registre, donc en 1215-1216, qu'il nourrit dès le départ par une enquête orale, donc une enquête ethnologique, qui lui permet de remonter un siècle en arrière et de connaître les parentés existants ces paroissiens à l'époque où il établit le livre. Le livre fut ensuite tenu, selon les modalités qu'il avait inventées, par ses successeurs jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc vous imaginez la qualité d'un matériau de ce type. C'est une source rêvée. J'ajouterai à ces travaux ceux incroyablement méticuleux et précis qui ont été conduits par Guy Tassin, décédé récemment, sur Aveluy, dans le nord de la France, entre les XVIIe et XIXe siècles, à partir de tous les documents d'archives accessibles. À quelle conclusion arrive donc Gérard Delisle à partir de tous ces travaux? Il montre avec certitude que la fixation définitive des noms de famille voulue par l'Église, cette fixation aidant, on voit une tendance forte à la reconnaissance de lignées de transmission du nom du père et des lignées paternelles des épouses, ce qu'on pourrait désigner, si je peux m'exprimer ainsi, comme des sortes de crêtes de patrilinéarité dans un tissu cognatique de filiation. Ça apparaît régulièrement, les crêtes de patrilinéarité. Et dans tous les cas, il décèle, dans tous les cas, deux règles fondamentales. On ne peut se marier dans le nom du père, ni dans le nom des mères, c'est-à-dire le nom de la mère et celui de la mère du père. Alors, il ne parle pas de lignage, puisqu'il ne s'agit pas proprement de parler, mais c'est l'équivalent, c'est dans le nom patrilinéaire du père ou des deux mères et grand-mères paternelles. Les pourcentages d'infraction sont incroyablement faibles, entre 0,1 et 0,5%. Bon. Il s'agit en quelque sorte d'interdits portant sur des lignées patrilinairement définies, et cela au très long cours, car sur plusieurs siècles. Il observe en outre une série de pratiques hautement préférentielles, des bouclages dans la consanguinité, comme dans les systèmes semi-complexes, dès que cela devient possible immédiatement, et surtout des échanges réguliers, en faisant jouer, comme dans les structures semi-complexes, le recours à ce passage aux lignées collatérales alternées. Rien en tout cas qui ressemble à cette turbulence inorganisée pressentie, ou à un système éclaté, où des conjoints se prendraient au loin dans des configurations totalement aléatoires. Les structures complexes peuvent donc obéir à des lois et à des régularités dont les mécanismes sont les mêmes que ceux des structures élémentaires. Restreint ou généralisé, elle pratique l'échange, la reduplication et le choix préférentiel dans la consanguinité. Néanmoins, quelque chose s'est passé à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, où l'on observe curieusement une montée en flèche simultanément des unions entre cousins dans un degré beaucoup plus rapproché et une dispersion des échanges réguliers entre les lignées alternées. La force du nom n'est plus la même. Si, faute de source, nous savons peu de choses sur la pratique de l'alliance avant Latran, nous devons nous atteler désormais à la tâche de comprendre la brutalité et la nature du changement opéré dans les structures complexes de l'alliance de nos sociétés occidentales au XIXe siècle et découvrir quelles sont les nouvelles lois de fonctionnement de ces systèmes en raison de grands impératifs de nature cognitive, vraisemblablement. Alors, le regard sur le monde a changé. De la même façon, il conviendrait de mener des études locales, concrètes et détaillées, qui manquent pour le moment, sur le fonctionnement des sociétés non occidentales et possédant aussi des structures complexes de l'Alliance. On est loin, semble-t-il, de l'hypothèse de départ d'une turbulence forte sans régularité structurelle décelable. La question devient, pourquoi ces mécanismes si proches de ceux décrits par Lévi-Strauss pour les structures élémentaires ont-ils une telle nécessité à être? À quelle profondeur des besoins humains correspondent-ils? Alors, une parenthèse est ici nécessaire. Sur mon terrain, j'ai été amenée à observer et à comprendre un système local de représentation de la nature, genèse et transmission du sang. Tout corps humain est censé, chez ces gens-là, receler 8 souches sanguines que pour utiliser notre langage, j'appellerais dominantes. Il y en a 2, celles qui passent par le père et par la mère. De récessives, il y en a encore 2 qui passent par la mère du père et la mère de la mère. Et enfin 4 résiduelles qui passent par les 4 arrière-grand-mères. En fait, dans le cas des passages par les femmes, il s'agit du sang du père transmis par ces différentes femmes. Alors chacun des parents, à son tour, ne transmet à l'enfant que ses 4 premières souches, les autres n'étant plus là que sous la forme de traces infinitésimales. Il faut 3 générations pour que s'efface une trace sanguine qui passe par une femme. Or, le grappin de l'alliance, pour reprendre l'expression de Pierre Damien, favorise l'union de personnes consanguines au-delà de ce délai, justement celles qui ont entre elles cette forme de familiarité des sangs due à ces traces infinitésimales résiduelles. Le trop près incestueux est gros de danger collectif, le trop éloigné est inquiétant par crainte d'incompatibilité entre les sangs. Mais à ce niveau, celui où il y a des traces qui restent, des traces communes entre les 2 conjoints, mais à ce niveau, les individus sont mitridatisés en eux face à la puissance du sang. Alors le système SAMO est certes raffiné et particulier, propre au SAMO, mais il est hors de doute à mes yeux que toute société élabore des conceptions relatives au corps, substance, humeur, à leur genèse, à leur transmission, et que ces conceptions sont en œuvre, sont en harmonie avec leurs règles d'alliance. Nous passons du domaine de la règle sociale à celui de la représentation, non seulement de la représentation de la règle elle-même, mais celle du corps et du cosmos. Dans le scénario célèbre de Lévi-Strauss, la prohibition de l'inceste est la seule loi universelle et elle a sous sa forme positive contraint des groupes consanguins qui se reproduisaient sur leur propre force à accepter la nécessité de l'échange. Nos ancêtres auraient-ils eu prescience des avantages et du charme de la vie pacifique entre alliés consentants? Et était-il nécessaire pour cela d'aller jusqu'aux rigueurs de la prohibition de l'inceste dans toute la variété des situations qu'elle revêt? Pour ne pas se faire tuer lors des raids de prédation, d'autres types d'accords, ponctuels ou durables, auraient pu être montés qui n'auraient pas eu le caractère contraignant et définitif de la prohibition de l'inceste. Rappelons d'autre part que si la prohibition portant sur les consanguins peut expliquer l'ouverture sur l'échange entre groupes, cette explication ne vaut pas pour les prohibitions qui portent sur les parents par alliance. Après tout, si un homme épouse une femme qui lui est permise par les règles, il aurait pu tout aussi bien épouser la sœur germaine de cette femme, la sœur qui partage les mêmes parents. Bon. Pourquoi celle-ci lui devient-elle interdite dans un grand nombre de sociétés, même au-delà de la mort de son épouse? La réponse se situe dans des représentations, donc dans des idées construites et psychologiquement affermies et effectives. Ces questions et l'analyse de cas m'amènent à postuler que la prohibition de l'inceste n'est pas simplement les prolégomènes nécessaires pour des échanges fondateurs du lien social. Plus profondément, elle ressortit d'une question essentielle que se pose toute forme d'humanité. Comment se constitue la substance même des corps et des fluides? Qu'est-ce qui constitue l'identité et la différence? Qu'est-ce qui sépare le soi de l'autre? Et d'un même mouvement, ce qui entraîne le plaisir de l'entre-soi de la consanguinité ou de la parenté en général, être avec ses proches, et le plaisir de l'entre-soi de sexe, être avec ceux qui partagent la même forme identitaire. Entre le même et le différent, que choisir? Vaut-il mieux pratiquer le cumul de l'identique ou au contraire rechercher des écarts maximalistes? Dans les deux cas, les sociétés postulent des effets imaginés par l'esprit, selon l'idée d'une correspondance qui existe entre le corps, les actes humains et le cosmos, selon des variations intéressantes le long d'un vecteur qui va du refus du cumul d'identique ou de la rencontre de substances identiques à son acceptation la plus grande possible, se pose la question très prosaïque du contact entre des substances corporelles. Lorsqu'elles sont de même nature et que leur contact est réprouvé, c'est l'inceste, il est censé déclencher des catastrophes, stérilité, sécheresse ou inondation, hémorragie qui touchent les hommes, les animaux, la terre. L'inceste, que j'ai appelé du deuxième type, quant à lui, relève de ce mécanisme de pensée, mais il implique cette fois-ci non pas deux consanguins de sexe différent en relation directe, mais deux consanguins qui ont même forme, qui ont même sexe, dont les substances sont amenées à se toucher par l'intermédiaire d'un partenaire commun. Il met en présence ainsi un père et son fils, qui partageraient une même épouse, une même femme, une mère et sa fille, deux frères ou deux sœurs. Cet inceste-là est axé des mêmes conséquences que l'inceste consanguin direct. S'il n'a rien à voir avec la nécessité de l'échange, mais tout avec la construction imaginaire de la substance, en ensemble différencié notamment par la transmission et l'alimentation, qui se tolèrent ou ne se tolèrent pas entre eux. À la base donc de la prohibition de l'inceste, valable tant pour l'alliance que pour les rapports sexuels, on trouve une construction de l'esprit imaginaire avec les différentes possibilités qu'elle peut offrir et qui est donc représentée dans différentes sociétés. Une seule de ces deux variantes aura pour effet et non pour cause d'instaurer l'exogamie. Un point annexe et important, l'inceste du deuxième type est fondée sur l'idée d'une identité particulièrement forte entre deux personnes ayant même substance consanguine, mais aussi même forme sexuée, d'où son efficacité dans le cas des sociétés qui ont cette représentation pour refuser les mariages entre alliés, entre beaux-frères et belles-sœurs par exemple. Cet interdit particulier n'a été levé en Europe, je le rappelle, après veuvage que vers 1918 et seulement en 1982 par le droit civil après divorce. C'est dire la force de l'idée qui n'a pas été créée par l'Église et pour notre profit dans nos sociétés occidentales, mais qui a été renforcée par elle. Les questions posées par l'humanité sur la substance et ce qui fait l'identité dépassent largement en antériorité et parfois en complexité, celles qui nous viennent de la théologie chrétienne. On en vient au troisième point. L'échange des femmes est-il une nécessité découlant de la prohibition de l'inceste? Y a-t-il toujours véritablement échange au sens strict lorsque ne sont pas décelables de véritables groupes échangistes, comme c'est le cas dans nos sociétés occidentales contemporaines, en gros, et ce depuis le XIXe siècle? Et il faut certes aller y voir sur le terrain de façon attentive et méthodologiquement bien rodée. Il me semble toutefois qu'on peut poser la question autrement. Il s'agirait moins de l'échange des femmes entre des hommes relevant de groupes échangistes différents afin de construire des liens stables de solidarité et de paix que d'un partage de femmes reproductives entre des hommes. Pour moi, la valence différentielle des sexes, qui se traduit plus banalement de nos jours par la domination masculine, constitue un opérateur logique tout aussi universel que la prohibition de l'inceste et comme lui tout aussi instable dans ses formes et potentiellement révisable. Car ce montage lui aussi idéologique, conceptuel, est le fruit de la pensée de nos ancêtres sapiens qui ont cherché à comprendre et à donner du sens à ce que leur sens leur permettait d'appréhender et à vouloir s'en saisir par la raison. On me prie donc d'abréger et de terminer ce que je vais faire. Ce qui importe à mes yeux, c'est de toujours penser comme première et fédératrice la question, c'est-à-dire celles que se sont posées l'humanité, et non la diversité qui parfois nous aveugle des réponses qui leur ont été apportées par les diverses sociétés et que l'esprit et où l'esprit humain a montré brillamment ses capacités réflexives. Ce qui importe aussi, c'est de voir que toutes les réflexions qui précèdent, et comme celles parfois divergentes que peuvent faire d'autres collègues, découlent d'une question fondamentale et fédérative également, qui a été posée par Claude Lévi-Strauss. Quand il a pointé l'importance de la prohibition de l'inceste, il n'a pas d'un coup débroussaillé le champ entier qui s'ouvrait, ni donné une réponse définitive, mais il a offert la possibilité à d'autres défricheurs de s'y risquer, mais il travaille toujours dans le cadre de la même question.